Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à tous, donc on est ensemble jusqu'à 20h en direct du nouveau studio numéro 1 de la Maison de la Radio. C'est Soft Power au sommaire ce soir de ce magazine de France Culture consacré aux industries créatives, aux médias et à l'internet global. Nous évoquerons le livre, l'avenir du livre et de l'édition avec Vincent Monadet, président du Centre National du Livre. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Avec vous, on détaillera les aides aux éditeurs et aux libraires, aux librairies indépendantes également. La politique du livre, confrontée notamment à la fermeture de Chapitre et de Virgin. Le plan bibliothèque et bien sûr le livre numérique et à travers lui, le livre tout court et son avenir. En première partie d'émission, on s'intéressera au soft power israélien avec le député, membre de la Knesset, Nizan Horovitch. Bonsoir monsieur.
Bonsoir Frédéric.
Le focus média d'Agnès Chevaux à 19h10. Bonsoir Agnès. Votre focus ce soir est européen, ou du moins ce qu'il en reste.
Ce soir, il va faire le buzz mon focus Frédéric, parce que je vais parler d'Europe et plus spécifiquement d'Europe à la télévision. Et comme chacun sait, quand on parle d'Europe à la télévision, Frédéric Martel, vous allez sauter sur votre chaise comme un cabri.
Et dans un instant, pour commencer cette émission, on parle de la petite clé Chromecast. Emmanuel Paquette, on dit un ou une Chromecast?
On va dire une clé Chromecast, puisque c'est une petite clé qu'on connecte directement sur son téléviseur de salon. C'est plus simple et puis ça évitera de se poser la question sur un ou une Chromecast.
C'est Soft Power jusqu'à 20h en live tweet sur Twitter au mot-clé Soft Power, hashtag Soft Power en un seul mot, ainsi que sur Instagram, Vine, Facebook et sur France Culture en direct. Mmh. 19h03 sur France Culture. Comme chaque semaine dans Soft Power, nous commençons cette émission par un débat et je vous propose d'écouter tout de suite ce premier sujet.
Now that you've set up your Chromecast, let's get going. First, grab your Android phone or iPhone. Then, connect to Wi-Fi. Open an app that works with Chromecast. Pick a video. And press the cast button.
Alors à l'instant, on parlait de Chromecast, Emmanuel Paquette, meilleure vente sur Amazon en France en informatique cette semaine. La Fnac le propose également en masse dans ses magasins. Il est tête de gondole, comme on le dit pour des livres. C'est quoi exactement Chromecast, le ou la, en tout cas la clé Chromecast?
En fait, c'est la nouvelle stratégie de Google d'attaquer maintenant le téléviseur du salon, après avoir attaqué le marché du livre sur Internet, le marché de l'actualité sur Internet et des informations, le marché du voyage en ligne, etc. Maintenant, il s'attaque directement au téléviseur. Et c'est la nouvelle tendance de fond. L'idée, c'est simplement une petite clé qu'on connecte directement au dos de son téléviseur. C'est une clé HDMI pour les techniciens. Donc, c'est une petite prise qui se trouve au dos de quasiment la totalité des écrans plats du marché aujourd'hui. Vous connectez cette petite prise, vous la connectez à l'alimentation et vous avez, via le Wi-Fi, accès au service de Google directement sur son téléviseur, c'est-à-dire en grande partie YouTube. Et donc, Google Play, qui aujourd'hui permet non seulement de faire de la vidéo à la demande, donc de télécharger et de visionner des films, mais également Google Music pour la musique et tant d'autres services. Donc l'idée, c'est de devenir ce qu'on appelle un OTT, alors un over the top, c'est-à-dire de se mettre par-dessus le réseau télécom des opérateurs existants en France grâce à cette clé, et puis de générer si possible du chiffre d'affaires, de créer du chiffre d'affaires autour de contenu culturel, donc audio et vidéo.
Alors, plusieurs avantages et inconvénients à ce Chromecast. D'abord, son prix, défiant toute concurrence, puisqu'il est autour de 35 euros sur le marché français.
Oui, quand on regarde la concurrence aujourd'hui, notamment l'Apple TV, c'est plus de 140, 130, 150 dollars, enfin 150 euros, pardon. Donc, on n'est pas du tout dans la même
gamme de prix.
Alors, même si l'Apple TV est beaucoup plus puissante, même si elle référence aujourd'hui plus de catalogues et de contenus que ne le fait aujourd'hui Chromecast, notamment si on veut accéder à des films, il y a beaucoup plus de choix aujourd'hui sur l'Apple TV. Mais il se trouve aujourd'hui que Apple a annoncé avoir vendu plus de 20 millions d'Apple TV dans le monde depuis son lancement en 2007. Et on attend d'ailleurs une nouvelle Apple TV probablement pour cette année, avec des nouvelles technologies, notamment des technologies israéliennes dont on pourra parler plus tard dans l'émission.
Alors toujours au rayon des points positifs, la facilité d'utilisation, on l'a dit, le prix, le fait qu'on peut, au fond ça permet d'éviter de racheter une nouvelle télévision en gros.
Oui, nos télévisions, alors avec un défaut, notamment sur le marché français, c'est que le marché français aujourd'hui est majoritairement équipé de boîtiers fournis par les opérateurs de télécommunications.
De box.
Aujourd'hui, les gens regardent la télévision sans le savoir, via Internet en majorité. Plus de 50% des foyers aujourd'hui en France regardent la télévision via Internet, donc ce qu'on appelle la télévision sur IP, bien plus que la TNT classique par antenne râteau qu'on reçoit traditionnellement. Et donc aujourd'hui, dans les boîtiers de ces opérateurs, on trouve déjà de la vidéo à la demande, on trouve généralement YouTube, Dailymotion, qui sont intégrés directement dans ces box, dans celles de SFR, dans celles de Free, dans celles de Numéricable. Et donc, on ne voit pas très bien ce que ça ajoute en plus, si ce n'est qu'on peut se servir aujourd'hui de son téléphone Android ou iPhone comme d'une télécommande pour emmener des contenus directement sur son téléviseur de salon.
Pour terminer sur les inconvénients, si on peut dire, de cette Chromecast, son nom l'indique, Chromecast, elle fonctionne d'abord et avant tout avec Chrome, c'est-à-dire un produit Apple. Un produit Google, pardon.
Un produit Google, oui, effectivement. C'est-à-dire que si vous avez sur votre ordinateur...
C'était pour moi si vous suiviez.
Jusqu'ici,
c'était
suivez.
Le cas.
Quand on a sur
non,
sa tablette...
Non, essentiellement avec Chrome.
Voilà,
sinon...
exactement. C'est-à-dire que si on a aujourd'hui des photos, des vidéos qui ne sont pas installées dans Chrome ou pas compatibles Chromecast, eh ben on les a sur son ordinateur, mais on est obligé de passer par une application tierce pour pouvoir les visionner directement
avec
sur son téléviseur.
Avec une manipulation assez complexe.
Voilà, donc c'est un peu plus lourd. L'idée, bien entendu, pour Google, c'est de pouvoir contrôler l'environnement Chromecast.
Et de rester dans l'univers Google.
Voilà, à la demande des endroits aussi, hein, parce qu'il faut être certain que les contenus, notamment vidéo qui transitent ou audio, soient aujourd'hui des contenus légaux, acquis légalement et payants, si possible, et pas des formats du type DivX, Xvid, etc., que ceux qui téléchargent illégalement connaissent assez bien, dont vous, Frédéric, je crois. Donc, on ne peut pas utiliser ça comme on le souhaite. Donc, il faut faire des petites manipulations un peu lourdes. Mais bon, bref, donc c'est un des écueils aujourd'hui de cette clé.
Agnès Chevaux.
Oui, effectivement, mais l'avantage quand même de la Chromecast par rapport au reste...
Ah, vous l'avez féminisé, vous.
Bah oui, comme ça, j'ai décidé. C'est qu'elle intervient après le flop quand même pour Google, qui est le flop de la Google TV, qui n'a pas atteint, selon les chiffres, alors c'est pas très transparent, mais il n'aurait pas atteint le 1 million d'exemplaires. Alors c'est vrai que par rapport à l'Apple TV, c'était un flop terrible. Il est vrai que la Google TV était assez chère, puisqu'elle était à 220 euros. Là, la Chromecast, même si elle n'apporte pas de choses révolutionnaires, elle permet quand même, c'est vrai, de regarder un certain nombre de films en streaming assez facilement avec son téléphone pour un prix vraiment modeste. Donc on voit bien qu'il y a une véritable bataille qui reprend de plus belle pour la télévision connectée.
En conclusion, Emmanuel Paquette, on peut dire que c'est une technologie de transition, puisqu'il est peu probable que ce soit durable. Il y aura sûrement d'autres façons de faire, et notamment bien sûr la télévision connectée, qui pour une part se passe très bien de Chromecast. Brian Roberts, le PDG du câble opérateur Comcast, qui par ailleurs a racheté NBC Universal et rachète aussi Time Warner Cable ces jours-ci, a dit récemment « I believe television will change more in the next 5 years than in the last 50 ». En gros, je pense que la télévision va changer davantage dans les 5 ans qui arrivent que dans les 50 ans passés. C'est l'avenir de la télévision aussi, Chromecast ?
Très probablement, et c'est vrai que ça va changer beaucoup de choses. D'une part, on n'a pas donné les chiffres, mais il se trouve que SFR, qui aujourd'hui propose Chromecast, à un prix plus avantageux que les 35 euros dont on a parlé, on en aurait écoulé plus de 30 000 en 15 jours. C'est le chiffre qu'a annoncé le directeur exécutif grand public, Franck Cadoré, de la division SFR. Donc 30 000 en 15 jours, c'est quand même pas mal. Ce qu'on entend sur le marché français, c'est plus de 100 000 déjà écoulés. Et au niveau mondial, plusieurs millions, puisque ça, c'est le chiffre que Google a annoncé lors de ses derniers résultats. Et autre élément, c'est que certes, on voit aujourd'hui les gens de l'Internet essayent d'attaquer le téléviseur de salon, mais on voit aussi les chaînes de télévision qui s'en emparent, qui mettent leurs services dans cette clé, peut-être pour attaquer des services étrangers un jour. Aller pourquoi pas attaquer le marché américain, le marché anglais, le marché allemand.
Oui, ça peut marcher dans les deux sens, même
exactement.
Si c'est rarement le cas.
Puisque Canal Play aujourd'hui, de Canal Plus et dans Chromecast.
C'est évidemment aussi un outil qui va être fonctionner avec Netflix, puisqu'on a Netflix généralement sur son écran d'ordinateur. Et évidemment, on pourra l'avoir directement sur le grand écran de la télévision. C'est aussi bien sûr un outil, la Chromecast, très utilisé pour le piratage illégal des films, d'où aussi son succès, même si ce n'est pas forcément dit dans les rayons de la FNAC ou sur Amazon, où ça s'achète en ce moment, n'est-ce pas ?
Oui, totalement. Oui. Mais en tout cas, c'est ce qui est certain, c'est qu'on va voir quand même des bouleversements assez forts de contrôle, de ce qu'on appelle délinéarisation de l'audiovisuel, c'est-à-dire de regarder quand on veut, quand on le souhaite, les contenus au moment où on le désire et sur n'importe quel terminal de son choix. C'est une tendance de fond qui risque de durer encore pendant pas mal d'années.
France Culture, 19h11 en direct. Agnès Chevaux, le Focus Média. Faut-il plus d'Europe à la télévision ? Cette semaine, vous revenez sur le débat autour de la visibilité médiatique des élections européennes, des élections apparemment boudées par certaines grandes chaînes de télévision françaises.
Oui, Frédéric, et le sujet a fait l'objet d'une belle polémique cette semaine. Alors, de quoi s'agit-il ? Du débat du 15 mai, prévu entre les 5 candidats à la présidence de la Commission européenne, France Télévisions ayant décidé de ne pas le diffuser en direct, mais seulement sur son site France TV Info. Alors c'est d'autant plus étrange que ce débat est le point d'orgue télévisuel de la campagne. Il est organisé par l'Union européenne de radio-télévision, l'UER, dont France Télévisions est membre, et il sera visible sur 20 chaînes de services publics dans 20 pays différents, et en France simplement sur les chaînes parlementaires LCP Public Sénat et sur Arte, et bien sûr sur le site de France TV Info.
Et ce fut la bronca.
Eh bien oui, dans une tribune sur le Huffington Post intitulée « France Télévisions ne doit pas censurer le débat européen », une trentaine de candidats français aux européennes ainsi que des responsables d'organisations européennes appellent le groupe à revenir sur son choix. Plus largement, les deux think tanks, Sauvons l'Europe et Terra Nova, ont lancé une pétition « Plus d'Europe à la télévision », car les élections européennes de mai 2014 s'annoncent, selon eux, comme le triomphe de l'abstention et des populismes.
Une polémique qui a peu à peu enflé toute la semaine.
Oui, au point que Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, a pris en main le dossier en annonçant sur son compte Twitter qu'elle saisissait le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour une meilleure diffusion des débats électoraux. Alors, et le CSA aussitôt de mettre la pression en rappelant à Rémi Flimelin l'importance de cet enjeu de service public. De son côté, France Télévisions se défend d'ignorer les débats européens, justifiant sa décision de diffuser celui du 15 mai sur son site France TV Info pour lui donner plus d'audience, parce que c'est un site internet et qu'on peut du coup le regarder de tous les pays, et pour ne pas ruiner les efforts des chaînes parlementaires françaises, LCP Public Sénat, dont c'est aussi la mission. Alors, l'argument, il est vrai, peut paraître un peu spécieux, surtout au regard du cahier des charges et des missions de France TV, et d'autant qu'il intervient, il est vrai, après une première polémique causée par la décision de France 2 de laisser Marine Le Pen, invitée de l'émission des Paroles et des Actes, refuser de se voir opposée au président du Parlement européen, Martin Schulz.
J'en profite pour vous donner une précision sur l'organisation des débats. Personne ne dicte sa loi à quiconque ici, et quand on organise un débat politique, un face-à-face, eh bien c'est entre deux personnes consentantes. On ne peut pas forcer quelqu'un à dialoguer, et cela, quel que soit l'invité, c'est dit.
C'est une mise au point, mais ceci explique peut-être cela, et personne ne se bat désormais pour diffuser un débat qui plus est
multilingue.
Langue. Mais c'est parce qu'il y a écrit sur mon papier.
un débat probablement et péniblement interprété, parce qu'il va être modéré en anglais, et chacun des impétrants pourra répondre dans sa langue. Donc forcément un peu difficile à suivre, même s'il faut le rappeler, pour la première fois, l'enjeu des européennes est non seulement identifiable, mais personnalisé, puisque les 5 grands partis politiques européens ont désigné une tête de liste qui a vocation à occuper le poste de chef de l'exécutif européen. Alors toujours est-il qu'il n'y a tout de même pas de quoi accuser France Télévisions, comme on l'a fait, d'être l'un des acteurs du désintérêt des Français à l'égard de ces élections et de l'abstention croissante dont elles font l'objet. Et la soudaine levée de bouclier est excessive lorsque l'on sait que l'Europe exige la nécessité d'un traitement pédagogique qui engage l'effort de tous, politiques, experts, médias, tout au long de l'année, pas seulement pour des élections.
À la décharge de France Télévisions, d'autres débats ont déjà, eux, été organisés.
Alors oui, France 24 et Radio France Internationale ont ouvert le bal avec un débat en français puis en anglais avec Martin Schulz et Jean-Claude Juncker le 9 avril.
Pour le premier débat des élections européennes qui auront lieu entre le 22 et le 25 mai, duel pour la Commission européenne. Nous recevons aujourd'hui 2 candidats à la présidence de cette institution qui vont mener campagne au niveau européen.
TV5, Arte, LCP, Public Sénat et même LCI ainsi qu'Euronews ont donc aussi prévu toute une série de rendez-vous, Agnès.
Oui, et même France Télévisions consacre des numéros spéciaux, de mots croisés et des paroles et des actes, certes avec des politiques français.
Et ils sont un peu spéciaux d'ailleurs.
Un documentaire sur le roman de l'euro, une façon de drainer l'audience. Et France 24, c'est plus original, sillonne depuis le 4 avril les routes du vieux continent afin de préparer toute une série de reportages sur les élections, à la rencontre donc des Européens.
Malgré tout, d'aucuns considèrent que les télévisions participent d'une certaine manière de ce désintérêt à l'égard de l'Europe par ses hésitations.
Alors, c'est vrai que le débat est récurrent, voire ressassé. L'Europe ne fait pas vendre et les médias y rechignent, ce qui contribuerait à creuser le déficit démocratique de l'Union européenne. À la radio comme à la télé, les émissions régulières sont rares. Les journaux télévisés consacrent une part infime. À peine 3% des sujets dans les journaux télévisés concernent l'Europe. Et puis, les médias ont plutôt tendance à parler d'Europe lorsque l'Union est contraignante sur le sujet abordé. Surtout lorsqu'ils peuvent opposer des États membres à des décisions prises par des organes européens comme la BCE ou la Commission européenne. Au total, une vision négative qui tend à offrir une visibilité et donc une lisibilité moindre aux enjeux les plus intégrés et les plus européanisés et à nationaliser donc les réussites et à européaniser les échecs de l'Union.
Bref, c'est des campagnes, en particulier des campagnes comme celle sur les élections européennes qui en font les frais.
Oui, les élections européennes font un peu figure de parent pauvre des campagnes électorales à la télévision. Elles ne font pas assez d'audience et dès 1979, les enjeux nationaux brouillent le message.
4e meeting de Simone Veil, hier soir à Lille.
Il serait bien temps que cesse ce double langage, celui que l'on tient pour la France et celui que l'on tient pour l'Europe. N'écoutez pas ceux qui parlent d'indépendance de la France, mais qui se refusent à lui faire confiance. Car leur langage n'est pas clair. Ils veulent aller à Strasbourg sans y aller. Ils veulent faire l'Europe pour n'y rien faire.
Et depuis 1979, peu importe que la crise de 2008 ait révélé l'importance de la Commission européenne, alors sur le budget, sur la régulation des banques et de la sphère financière, rien n'a vraiment changé et la voix des eurosceptiques paraît toujours plus glamour, plus prompte à faire de l'audience.
On est dans une vision bisounours. On fait croire que l'Europe d'aujourd'hui marche. Elle ne marche pas. Et on n'a pas le droit d'en changer. Pourquoi on ne développerait pas des projets européens comme Airbus dans des domaines concrets à 3 ou 4 pays ? Qu'est-ce qu'ils ont sorti depuis 20 ans ? Rien, excepté la monnaie qui nous tue. Donc il y a bien un moment, il faut réagir. Et moi j'appelle justement les Français modérés à réagir. On n'est pas obligé d'aller aux extrêmes pour réagir.
À l'instant, Nicolas Dupont-Aignan.
Alors, les médias ne sont pas les seuls en cause. Les politiques, en nationant le débat à outrance, ont également une responsabilité.
Très honnêtement, ce que je fais aujourd'hui me rapporte beaucoup plus d'argent. Je vais perdre de l'argent en allant au Parlement européen. La différence, c'est que moi,
mais
je crois à l'Europe.
Mais vous ne le faites pas pour l'argent, Madame
Agnew-Marie.
Vous ne le faites pas pour l'argent, j'espère.
Mais justement, je ne le fais pas pour l'argent. C'est ce que je vous dis, puisque justement,
non, mais je comprends pas l'argument.
J'accepte de revenir.
Je ne comprends pas l'argument.
Je vous dis que si je vais aux européennes, c'est parce que j'ai envie de faire quelque chose à l'Europe et non pas pour un avantage quelconque.
Michèle Alliot-Marty, donc candidate aux européennes, qui allait perdre de l'argent.
Et oui, au point que les jeunes de l'UDI, il y a des jeunes à l'UDI, ils ont de l'humour, ont lancé un mamaton, donc qui reprend la charte graphique du Téléthon et son appel à la générosité de chacun pour financer Michèle Alliot-Marty qui va perdre de l'argent. C'est sans parler aussi de la campagne décalée d'Europe Écologie Les Verts, Frédéric, qui s'appelle « De non vie à l'Europe » et qui s'inscrit, sur un préservatif. Donc une campagne, bien sûr, qui a été aussitôt un peu raillée sur les réseaux sociaux.
Et finalement, en conclusion, faut-il plus d'Europe à la télévision ?
C'est une bonne question. Plus, peut-être, on a surtout envie de dire mieux. Mais une télévision, au fond, ne peut servir de bouc émissaire. La responsabilité est collective. Et il faut d'abord sortir de la schizophrénie française qui consiste à reprocher aux médias de ne pas suffisamment parler d'Europe sans s'y intéresser vraiment.
Le Focus Média d'Agnès Chevaux, 19h20 en direct sur France Culture. Dans un instant, on parle du soft power israélien.
Could be winter or the summer on the road. I do one direction numbers, I don't fucking miss. Yeah, Stunner and Magno. When Wayne was gone for 8 months, we put this thing up on our back and I was snapping off on every single track though. Collect card from the boss like where we at though. I was like, huh, it's our time nigga. He left Rikers in the Phantom, that's my nigga. And I be rocking with the team that caught a nine. And we YC and be waiting on somebody to try us nigga. Yeah, I'm the only one to get the job done. Some game from my day, so she might say she love me, she don't love me like she said she love me. Believe me, believe me, believe me. I'm that nigga boy that love me in the street. In the street, I'm not trying to find nobody else to be. I'm the one they couldn't see because they are. Believe me,
Lord knows I'm hurt one evening. Yeah. Lil Wayne est de retour, le rappeur qui dévoilera prochainement son nouvel album Carter 5 vient de sortir, un tout nouveau single en guise de teaser, comme on dit, Believe Me. Pour son grand retour, Lil Wayne a fait appel à son pote de Young Money, Cash Money Business, Drake, les deux rappeurs que l'on écoutait à l'instant dans Believe Me.
יפה, ממשיכה. 10 שניות אחורינו.
וואי, האמת שאין לי מושג. אני מתלבטת בין בייג'ינג לניו דלהי. לדעתי זה לא סידני.
אז תחי את סידני, אם את אומרת זה לא סידני בטוח.
אני מפחדת לאללה.
כחול סידני.
3, 2, 1.
ממשיכי. כל הכבוד. Alors l'instant, un extrait d'un jeu télévisé, Boom. Bonsoir Nitzan Horowitz. Vous connaissez
Frédéric.
Ce jeu télévisé?
Tout à fait, très populaire en Israël. Oui.
Ça consiste
c'est un
en
ami
quoi,
en fait qui le fait. Oui. Voilà.
Il faut rappeler que vous êtes un ancien journaliste, d'ailleurs vous avez été correspondant de Haaretz à Paris pendant 5-6 ans, voilà. Désormais député Meretz pour l'affiliation politique à la Knesset, donc au Parlement israélien. On vous a reçu lors de ce voyage que vous faites à Paris cette semaine. On souhaitait savoir au fond en quoi consiste aujourd'hui.
Et je suis ravi d'être ici, mais je m'excuse pour les fautes de français que je vais commettre. Donc,
à l'avance. En quoi consiste, si on peut le dire ainsi, le soft power israélien? C'est quoi votre soft power?
C'est tout un secteur économique, social, technologique qui développe des start-up, des réseaux médiatiques, des médias sociaux tout autour de l'Internet, mais aussi des appareils électroniques divers et qui représentent un grand parti de l'économie israélienne, aussi de l'influence d'Israël dans le monde, etc. Donc, c'est
mais ça
très
en
important.
Soi, c'est le soft power partout dans le monde. En quoi il est spécifiquement israélien? En quoi il est singulier?
Je crois que la largeur étrangères de ce secteur en Israël, et c'est énorme en Israël par rapport aux autres pays. Enfin, le pourcentage que ça représente, etc.,
habitant,
chiffre
disons,
d'affaires, ouais. et habitants, etc. Et aussi l'influence sociale que ça porte sur la société israélienne. Tout le monde est sur Facebook. Moi-même, en tant que député, j'ai une page très active aussi.
Oui, vous étiez candidat à la mairie de Tel Aviv, donc avec des dizaines de milliers de fans. Ouais.
J'ai perdu quand même.
Mais j'ai laissé le suspense.
J'ai reçu 40% de voix.
Et combien de fans sur Facebook ?
Et 60 000 pour moi, donc c'est pas mal.
Oui, pour une ville comme Tel Aviv.
Mais on investit énormément là-dedans. Et pas seulement moi, les partis politiques, enfin les acteurs politiques, les joueurs, tout ça. Et ça représente énormément d'importance pour nous sur le plan politique. Donc, autant que politicien, je le dis. Mais ça représente aussi beaucoup d'importance sur d'autres plans économiques, sociaux.
Alors, etc. Comme député Meretz, notamment la gauche israélienne, vous défendez notamment, au fond, vous êtes relativement très en faveur du processus de paix. On y reviendra peut-être. Très en difficulté aujourd'hui, très affaibli, y compris de la part des Américains, de John Kerry. Dans ce processus que vous souhaitez, de processus de paix, le développement économique est central pour vous, et notamment donc précisément ces questions de soft power.
Oui, je dirige le groupe parlementaire en Israël qui s'occupe de la coopération régionale. Et dans ce cadre-là, et nous aimerions de développer tout ce qui est en dehors de la politique avec nos voisins arabes, c'est-à-dire la culture, le commerce, le tourisme, le transport, la science, enfin toutes sortes de coopérations, et ça passe surtout par Internet. Donc, pour nous, ce que vous appelez le soft power représente un avenir, c'est-à-dire une vision pour la région, pas seulement pour mon pays, mais pour la région. D'abord,
il faut dire aussi que le marché domestique à l'intérieur d'Israël n'est peut-être pas suffisant pour son développement.
Israël, c'est un tout petit pays. Et donc, on a la région comme une vision pour l'avenir. Mais il faut d'abord passer par la paix. Je souligne, on ne peut pas éviter, on ne peut pas échapper à l'accord de paix qui, pour l'instant, les négociations sont suspendues.
Allô ?
Nourit ?
Ouais ?
C'est Ilan Feldman.
Ah, bonsoir, Ilan.
Je te dérange pas ?
Non, pas du tout, je suis en train de faire la cuisine.
Il faut que je te parle, c'est important.
Je t'écoute.
J'ai reçu un coup de fil de Tzvika Harel, du cabinet du Premier ministre. Il y a du nouveau, les négociations ont abouti. Un accord a été signé.
Ah oui.
Ouri est vivant. Il va rentrer.
À l'instant, Hatoufim, une série israélienne qui a été le modèle qui a inspiré Homeland.
Alors, justement, il y a un véritable phénomène qui est relativement nouveau, c'est la télévision israélienne, en fait, ou les productions israéliennes qui s'exportent de plus en plus. Ça a été particulièrement remarqué lors du dernier MIP TV en France.
À Cannes, ouais.
Comment vous expliquez ce phénomène ? On dit aujourd'hui que c'est un phénomène qui rappelle celui des Pays-Bas au début des années 2000, c'est-à-dire que les productions israéliennes sont achetées un peu partout dans le monde.
On a un marché culturel très petit, et la langue, c'est le seul pays qui pratique la langue hébraïque. Donc, pour nos artistes, pour nos écrivains, pour nos cinéastes, et la seule chance de développer, c'est d'aller à l'extérieur. Donc, ils font beaucoup d'efforts pour développer des modèles, toutes sortes de programmes, toutes sortes d'idées pour les vendre ailleurs.
Mais il y a un modèle culturel quand même. Il y a un modèle culturel, parce que quand on regarde Hatoufim ou Ostagès, c'est quand même des séries à base de prise d'otages. Boum, c'est pour éviter des attentats. Il y a aussi Fundastic, je crois, qui est aussi
Ostagès, sur business, le thème des otages.
Business show, c'est...
Malheureusement, on vit dans une région assez chaude, quoi.
Mouvementée.
Et nous avons une expérience parfois triste, parfois tragique en Israël, et qui s'exprime dans les œuvres culturelles et aussi par ces émissions-là. Et donc, c'est tout à fait normal qu'un jeune Israélien, il écrit, il parle, il raconte son expérience personnelle en tant que soldat ou en tant que quelqu'un qui a fait des batailles, etc., qui a vécu le terrorisme, etc. Donc, c'est tout à fait normal, mais j'aimerais bien qu'il y aurait autre chose. Pas seulement enfin, la guerre et les bombes et tout ça, mais parce qu'on a, vraiment une société très diversifiée et on a d'autres choses à vendre. Mais pour l'instant, c'est marqué par ça. Et au moins sur le champ culturel, que ça reste là-bas.
Emmanuel voilà. Paquette.
Dans le domaine d'Internet et des nouvelles technologies, il y a des similitudes avec la Corée du Sud. Donc un petit pays, vraiment tourné vers l'export, avec beaucoup de technologies. Mais il y a une différence fondamentale qui est que la Corée du Sud aujourd'hui a des champions nationaux du type Samsung, LG. Et en Israël, non. On voit plutôt... Alors, il y a quelques exceptions.
Ils sont rachetés par les Américains.
Voilà,
souvent.
Ils sont rachetés souvent par des Américains. On a vu Waze, par exemple, qui a été racheté par Google par 1,1 milliard. Viber a été racheté par le japonais Rakuten. Donc, ça, c'est des services de communication sur Internet ou sur téléphonie mobile. Il y a quelques exceptions. Alors, PrimeSense, dont on avait parlé, qui est un système de reconnaissance de gestes qui, aujourd'hui, équipe la Kinect de Microsoft et qui a été racheté par Apple, qui, sans doute, sera dans l'Apple TV pour la reconnaissance de mouvements devant le téléviseur du salon, est israélien aussi. Mmh. Et on voit quelques sociétés qui arrivent à rester seules, qui arrivent à se coter sur le marché américain, comme Checkpoint. Alors on ne se refait pas, hein, c'est dans la sécurité informatique. Oui. Et là, elle reste indépendante, mais pour des raisons très proches de la sécurité nationale, je suppose, puisque tout ça est impulsé aussi par le gouvernement. Donc comment vous expliquez ces similitudes avec la Corée du Sud? Beaucoup une vraie volonté politique, beaucoup d'exportations, mais une différence notable qui est pas de champions nationaux pour l'instant.
À mon avis, c'est la raison de l'éducation nationale. C'est-à-dire, nous avons de gens qui travaillent dans la production de tous ces produits. Mais après, si on examine la base de la société israélienne, on manque une couche cultivée des mathématiciens, des gens qui apprennent la technologie. Et c'est pour cela que c'est quand même ça représente une minorité en Israël. Ça représente pas une société tout entière. Et voilà, il faut investir plus dans l'éducation, aux enfants, à la jeunesse, pour les mettre dedans. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas.
À quel point aimez-vous votre famille? Je crois qu'on ne le sait pas vraiment jusqu'au jour où on est mis à l'épreuve. Demain, à 11h, vous devez opérer Shmuel Netzer. Il ne survivra pas à l'opération.
Donnez la mort pour sauver sa famille.
À partir de maintenant, vous n'êtes plus jamais seul.
S'il arrive quoi que ce soit à mes enfants, vous allez regretter le jour où vous êtes entré ici.
Un extrait de Hostages avec Nitzan Horowitz, député israélien à la Knesset. Une question d'Annie Chevaux.
Oui, toujours sur la télévision, il y a un an, s'est lancée une CNN israélienne. Il s'agit de E24 News,
oui.
Qui était censée porter, qui est en hébreu, en arabe et en anglais, qui était censée porter un regard...
En français aussi.
Et en français aussi, oui, un regard israélien sur le Proche-Orient.
Son directeur est français d'ailleurs.
Et son propriétaire est Patrick Drahi, et le directeur israélien. Et le directeur aussi, effectivement. Donc, quel bilan vous pourriez tirer de cette expérience? Donc, c'est quoi un regard israélien sur le Proche-Orient pour une télévision?
D'abord, c'est basé dans la ville de Jaffa, et à côté de Tel Aviv, du centre. Ils ont des studios magnifiques qui donnent sur la mer, c'est un vue impeccable. Et moi, je suis allé plusieurs fois. Et pour donner des interviews, ils essayent de montrer un regard, comment dirais-je, équilibré de la situation israélienne. C'est-à-dire pas seulement des événements de sécurité ou du terrorisme, enfin des trucs comme ça, mais aussi des phénomènes culturels, sociaux, et phénomène qui concerne la société israélienne, qui est quand même peu connue à l'étranger. Donc, à mon avis, c'est un projet avec beaucoup de risques, pour l'instant peu connu en Israël même, et c'est visé à l'étranger, à l'extérieur. On verra, et c'est la première fois qu'on essaye de faire quelque chose comme ça. Et bon, j'essaye de les aider, mais pour l'instant, ça reste à voir si ça peut vraiment marcher de la part d'un pays comme Israël. Ça reste à voir.
Nitzan Horowitz, député à la Knesset en Israël, député Meretz. Pour terminer, une dernière question. Si le soft power, c'est aussi des valeurs, une nouvelle loi affirmant l'identité exclusivement juive d'Israël est en débat, est en proposition à la Knesset. Au fond, est-ce que le soft power, n'est pas... n'est pas gêné parfois par la politique israélienne plutôt que servi par lui?
À mon avis, le soft power ne peut pas rester dans le champ technologique. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement d'un outil qu'on utilise pour influencer quelque chose. Ça doit aussi présenter quelques valeurs, comme par exemple les droits de l'homme, la démocratie, la dignité humaine. Sans ces valeurs, il ne s'agit pas de soft power. Il s'agit de rien. Donc,
et sur la loi affirmant l'identité, excusez-moi, voilà, juive d'Israël,
ça fait partie de cela.
Votre position en tant que parti, en tant que
député? Ma position, c'est qu'Israël doit être d'abord un pays démocratique où tous les citoyens, peu importe leur origine, les religions, les races, sont des citoyens égaux. Ça, c'est la base d'un État moderne, démocratique, ouvert. Et voilà, c'est pour cela que je suis député en Israël, pour promouvoir les valeurs démocratiques aussi dans le soft power.
Nitzan Horowitz, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Philippe Catherine, album Magnum, pas tout seul, nouvel album sorti en avril. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour Soft Power. L'invité de Soft Power ce soir est Vincent Monadet, président du Centre National du Livre.
Bonsoir.
Alors on va peut-être commencer par rappeler ce qu'est le Centre National du Livre. Comment vous le définiriez-vous?
Oui, c'est un établissement public du ministère de la Culture qui est financé par deux taxes et qui soutient la création, l'édition, la librairie et la promotion du livre. C'est un peu le CNC du livre, toute proportion gardée, puisque notre budget n'est pas le même.
Il est de combien?
Nous avons un budget d'aide d'environ 37 millions d'euros redistribués.
Sur 2013?
Sur 2013, oui.
L'argent du CNL, vous venez de le dire, provient de deux sources différentes. Mmh. Revenons sur les deux. D'abord, une taxe sur les appareils, disons, de reprographie. Ouais. Quoi, les photocopieurs, les scanners.
Les scanners, tout ce qui sert à faire de la copie privée.
Ça représente quelle part à peu près de votre budget?
Ça représente 29,4 millions dans notre budget, puisque c'est comme toutes les taxes par décision qui en 2011, elle est écrêtée.
On dit que ce sont des contributions aussi pour une moins méchante, des fois.
Ce sont des contributions volontaires et obligatoires.
La deuxième partie, et c'est une taxe qui a tendance, enfin une contribution
non,
qui augmente.
Non, puisqu'elle est écrêtée. Elle ne baisse pas, donc ça c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire
mais
qu'on
elle ne
pensait
pas
qu'elle est écrêtée par l'État, donc dès qu'on atteint 29,4, Bercy garde tout.
La deuxième partie, c'est un pourcentage sur les chiffres d'affaires des éditeurs les plus
des maisons
le plus de succès.
D'édition qui font plus de 76 000 euros de chiffre d'affaires. Là, pour le coup, c'est vraiment très redistributeur puisqu'on prend aux maisons ce qu'on va redistribuer aux maisons.
Aux grosses pour donner aux petites.
Pas seulement aux grosses, parce que 76 000 euros de chiffre d'affaires, ça concerne
oui,
aussi
beaucoup
de maisons d'édition. Mais c'est vrai que les gros éditeurs contribuent plus. Ils l'acceptent d'ailleurs très bien. Et ils se font fort de me rappeler parfois qu'ils sont contributeurs directs au budget du CNL.
Alors c'est la première fois qu'on vous reçoit dans Soft Power. Vous-même venez de ce secteur. Vous avez été libraire. Où ça d'ailleurs?
La librairie de Paris, Place Clichy,
le
de la
Main aussi.
Et puis le Divan à l'époque, lorsqu'il était Place Saint-Germain-des-Prés, pour ceux qui...
Le connaissent, le se connaissent, souviennent. Oui. Vous avez été aussi, ou aujourd'hui d'ailleurs, il y a la Une en fait, c'est un peu
la Une
à remplacer ouais, le
à
Divan.
Fait. Après Dior.
Vous avez été conseiller culturel au Brésil, c'est ça?
Non, à Brazzaville.
À Brazzaville.
Au Congo.
Au Congo, pardon. Au Brazzaville. Non, mais c'est Brésil aussi, c'est pas loin.
Le Brésil, ça m'aurait plu, mais en portugais, je suis moins bon qu'en français, donc ça aurait été plus difficile.
On nous avait dit Brazza quelque chose, vous voyez. Puis vous avez été au cabinet de Nicole Bric et en charge aussi du motif, juste pour revenir sur votre parcours.
Oui, le motif, c'était le Centre régional du livre de la région Île-de-France, puisque en fait, à l'origine, j'étais conseiller culture de Jean-Paul Huchon à la région Île-de-France. Et donc en 2008, quand le Centre régional s'est créé, j'en ai pris la direction.
Alors, trois sujets ce soir. On va évoquer les différentes aides du CNL. On évoquera ensuite la politique du livre. Et puis enfin, le livre numérique, bien évidemment, notamment son avenir, y compris confronté à un certain nombre de livres qui sont disponibles par abonnement en streaming. Nouvelle évolution du secteur du livre qui ne fait que suivre finalement celle de la musique ainsi que du cinéma. Peut-être pour commencer, Emmanuel Paquette, sur les aides du CNL, librairie, éditeur, auteur, traducteur, toute la profession, bibliothécaire est aidée.
Oui, alors vous vous comparez au CNC, alors sans la cagnotte du CNC, hein, parce que c'est quand même un
sujet récurrent.
Voilà, c'est un sujet récurrent extrêmement sensible pour l'industrie du cinéma. En revanche, concernant les librairies, vous avez vous-même, vous avez décidé d'augmenter de 2 millions d'euros les aides pour la reprise de libraires, notamment des petites librairies de province, je suppose, dans des zones un peu particulières, pour permettre un meilleur maillage et éviter que des libraires ne disparaissent dans des zones où il n'y a pas beaucoup de diversité. Est-ce que vous avez déjà un premier bilan à tirer, parce que là c'est peut-être un peu court, mais est-ce que vous avez déjà une vision assez claire d'où vous voulez investir pour éviter justement cette désertion?
Ce que nous cherchons à faire, c'est à empêcher la fermeture de librairies faute de repreneurs et faute de financement de ces repreneurs. Donc la ministre a annoncé un plan librairie exceptionnel en année 2013, que j'ai mis en œuvre à mon arrivée, hein, 5 millions à l'IFSIC pour un fonds à la trésorerie des librairies, plus 4 millions à la DELT pour la reprise et la transmission des librairies. Et moi, j'ai décidé d'y consacrer, il y avait 4 millions d'euros par an, j'ai décidé d'y consacrer 6 millions d'euros par an, par arbitrage en interne, évidemment. Ce qui nous conduit à aider des libraires qui ont un projet de reprise, mais qui n'ont pas les financements pour le faire. Ensuite, ce maillage de librairies était à peu près unique au monde, et effectivement, il concerne beaucoup de centres-villes, de petites communes. Et il s'agit de se concentrer à la fois sur les 150 à 200 librairies qui sont le cœur, les grandes librairies qui sont le cœur de l'offre de librairies, mais aussi sur toutes celles qui permettent d'avoir du livre dans les territoires. L'essentiel, pour moi, c'est de garantir la présence du livre sur les territoires et la part de la librairie, qui est à peu près de 30% aujourd'hui en France.
Mais sans que ça soit sous perfusion, parce que
il n'y a pas de perfusion. Une librairie, c'est un commerce, ça doit être rentable. Si c'est pas rentable, ça ferme, c'est tragique, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de perfusion, au sens où, mais cette rentabilité est très faible. Il s'agit d'aller appuyer des projets de reprise, et lorsque nous versons des subventions, d'améliorer finalement, au nom d'une certaine qualité que nous défendons en tant qu'établissement public et qui est défendue au niveau de l'État français, cette rentabilité est extrêmement faible. C'est le commerce de proximité qui a le moins de rentabilité de la librairie.
0,5%.
0,5,
oui. Mais en dépit de cette aide, qu'il s'agisse de l'aide du CNL ou de l'aide directement de la ministre de la Culture, la situation quand même des libraires reste extrêmement sensible, non?
Alors, vous avez des tas de libraires qui marchent bien. Le Divan, on en parlait, Mola, Ombre Blanche,
à Bordeaux,
Dialogue, à Brest.
Ça, c'est les grandes, ça, c'est le réseau des grandes librairies.
Les grandes librairies fonctionnent bien.
Dans les centres-villes, dans les villes assez importantes.
Oui, vous avez aussi des petites librairies de proximité. Il y a quelques exemples de cafés-librairies en Bretagne, par exemple, qui sont très dynamiques. Et puis, il y a, je dirais, une faiblesse économique, une crise économique grave qui frappe certains territoires. Quand une librairie est implantée dans ces territoires, là, elle souffre plus qu'ailleurs, évidemment. Et là, il ne s'agit pas de les mettre sous perfusion, il s'agit de mettre en place le pont qui va leur permettre de passer la crise.
Je vous propose justement d'écouter une libraire.
C'est un petit peu glauque, c'est vrai qu'on a dormi sur place cette nuit. On se disait, en fait, dormir là, au milieu des allées, où en fait, d'habitude, ben, y a tous les clients qui nous soutenaient. C'était un sentiment bizarre, en fait. Mais on est décidé, on ne lâchera rien, quoi. On n'a plus rien à perdre, quoi.
Une salariée de la librairie Chapitre de Montbéliard, dans le Doubs, sur France 3 en février dernier. Donc là, c'est le dossier Chapitre.
Alors, c'est un dossier très douloureux, puisqu'il y avait 57 boutiques, qu'on a réussi à en sauver une trentaine, qu'il y en a qui ont fermé, malheureusement. Faute de repreneurs. Pour le coup, c'est faute de repreneurs. Nous ne pouvons pas créer les repreneurs ex nihilo. Partout où il y a eu des repreneurs qui ont sollicité notre aide, ils ont été aidés. On a quand même sauvé l'essentiel du chiffre d'affaires de la chaîne Chapitre. Après, il y a une casse sociale qui est évidente et qui, moi, personnellement, me désespère. Et il y a encore quelques librairies qui risquent d'être rachetées à Reims, etc.
Emmanuel Paquette.
Oui, dans le même temps, il y a eu un sondage qui a été fait par IFOP Livre Hebdo où on voit que même les gros lecteurs aujourd'hui ont tendance à diminuer leur consommation. Alors, je ne sais pas si ce sondage vous paraît légitime ou pas, mais ils disent qu'aujourd'hui, un gros lecteur lisait autour de 15 livres en moyenne sur un an, et c'était 16 en 2011, et que dans le même temps, quand on regarde les chiffres, sur les 4 années, les 4 dernières années, c'est-à-dire depuis 2010, le chiffre d'affaires est en repli, moins 1% en 2013. Donc il y a quand même des signaux, donc en chiffre d'affaires, une chute, et puis une légère désaffection aussi des gros lecteurs. Est-ce que ça, c'est pas quand même des signes extrêmement négatifs ?
Moi, je veux pas faire le ravi de la crèche, mais faut être clair. 1% de chiffre d'affaires en baisse depuis 2010, quelle branche de l'industrie n'est pas prête à signer ça demain, depuis 2008 et la crise qu'on traverse ? Par ailleurs, sur la question du grand lecteur, cette étude, elle va plus loin. Elle prouve que 80% des jeunes lisent. Alors oui, on a un tassement des grands lecteurs, mais un élargissement de la base. Donc globalement, le marché se porte plutôt bien et plutôt mieux que d'autres branches de l'industrie. Il y a une interrogation sur la librairie. Je pense que le plan qui a été mis en place va permettre de répondre et d'empêcher la fermeture faute de repreneurs. Il y a une crise qui fait que certaines boutiques vont fermer, on le sait. Certaines maisons d'édition vont avoir des difficultés, on le sait. Mais au-delà de ça, la désaffection des Français pour le livre, et on y reviendra spécifiquement pour le livre papier, ne se dément pas et est un peu exceptionnelle dans un environnement global.
Non, mais... Vincent Monadet, le président du Centre National du Livre, est une il ne fait pas le ravi de la crèche. Nous avons notre collègue député israélien qui a été celui qui a porté la loi, qui a fait voter la loi du livre en Israël. Je lui laisserai la parole dans un instant, mais tout ça, au fond, d'où l'image du ravi, c'est aussi parce qu'il y a des lois, il y a aussi une histoire en France de défense des libraires, notamment grâce à cette loi.
Oui, on évoquait le CNC langue. En blaguant, mais tous les professionnels du cinéma vous diraient qu'ils sont prêts demain à renoncer à un certain nombre de subventions contre l'équivalent d'une loi comme celle sur le prix unique du livre. Cette loi, elle est fondatrice parce qu'elle a sauvé l'ensemble de la chaîne.
Elle a été adoptée en Israël récemment, Nissan Horowitz.
En plus, la loi française chez nous.
Vous l'appelez la loi française.
Parce qu'on a pris le modèle français, on l'a appliqué chez nous et c'est en vigueur depuis deux mois, depuis février cette année, qu'on a commencé avec la loi du prix unique en Israël. Il y avait une polémique atroce.
C'est pourquoi une polémique ?
Parce que on a deux chaînes de magasins qui contrôlent en fait les marchés et eux ils étaient contre la loi, ils ont mis beaucoup d'argent pour éviter, mais à la fin on a gagné et voilà, et donc je suis très fier d'être l'initiateur de la loi française sur le prix unique des livres en Israël.
Voilà. Bah nous on l'appelle la loi langue, chacun son nom. Agnès Chevaux.
Je ne sais pas si je vais faire la ravie de la crèche, mais il n'empêche, c'est vrai que même si le marché du livre se porte plutôt bien, il connaît quand même une érosion depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus complètement ignorer les nouveaux modes de consommation du livre, sans même parler du livre numérique, mais justement de la concurrence de géants comme Amazon. Alors vous savez qu'il y a une loi dite anti-Amazon qui a été votée au Parlement, mais qui n'est pas encore adoptée, puisqu'elle n'entrera en vigueur qu'après examen par la commission de Bruxelles. Est-ce que c'est une loi qui interdit le cumul des 5% de remise légale et la gratuité des frais de port ? Vous en attendez beaucoup de cette loi ? Est-ce que vous pensez que ça va changer beaucoup de choses sur le marché du livre, sur le réseau des librairies ?
Économiquement, non, je ne le crois pas. Mais c'est son impact psychologique qui est important. C'est de dire on revient à la loi langue et on ne peut pas dire qu'on fait 5% plus la gratuité des frais de port. Ça va contraindre Amazon à choisir, ça va contraindre Amazon à rentrer dans le jeu normal de respect de la loi française. Je pense que le problème d'Amazon...
C'est vraiment une menace, Amazon ?
C'est pas... Personne n'est une menace dès lors
qu'il joue. Pour les éditeurs, pas forcément, pour les libraires, beaucoup plus.
Moi, je suis tout à fait favorable à la loi du marché et à la concurrence. Encore faut-il que les grandes industries américaines qui nous parlent toujours de la loi du marché et de la libre concurrence respectent elles-mêmes les lois du marché et la concurrence. Ça n'est pas le cas d'Amazon.
Donc il faut que ce soit une concurrence juste.
Loyale. Le juste échange et la concurrence
donc,
loyale.
Donc sinon, régulation.
Et sinon, régulation. Ils pratiquent l'optimisation fiscale, ils pratiquent le contournement de la loi langue. Il était temps de les ramener au sens commun. c'est ce qui est en train de se
donc
faire.
C'est un moyen de pression aussi.
C'est un moyen de leur dire, vous pouvez faire des affaires en France, mais vous les faites dans les mêmes conditions que les autres.
Emmanuel Paquette.
Et vous ne pensez pas que ça arrive un peu tardivement? Parce qu'Amazon, ils sont quand même depuis un certain temps en France. On aurait pu s'en inquiéter auparavant. Alors, il y a eu des actions en justice qui ont eu lieu, qui d'ailleurs n'ont pas abouti.
Des actions fiscales aussi.
Ouais. Fiscales, là, je pense qu'on va voir. Hein, mais je pense que les juristes d'Amazon ont pas mal d'atouts dans leur poche pour éviter l'optimisation fiscale à l'avenir, de pouvoir continuer à le faire. Donc, pourquoi ça arrive si tard? Et avec une société aujourd'hui qui a d'autres moyens de contourner une loi qui elle-même va figer des choses dans le temps.
Peut-être qu'il n'y avait pas de volonté politique avant 2012 de légiférer contre Amazon.
Vous faites de la politique là.
Non, pas du tout. Je vous dis simplement que là, aujourd'hui, il y a manifestement une volonté de la ministre de légiférer contre Amazon et de le faire rentrer dans la législation française, y compris à son corps défendant. Encore une fois, Amazon n'est pas un ennemi. C'est un acteur du marché, c'est un acteur très important pour l'édition. Cet acteur simplement doit respecter les règles de la concurrence telles qu'elles sont établies en France.
Amazon, c'est aussi le Kindle et donc le livre numérique. Mmh. Alors vous, au CNL, qu'est-ce que vous faites pour aider les libraires, les éditeurs à prendre davantage le tournant du livre numérique, puisque on le sait, par rapport aux États-Unis, la France est assez en retard, puisque ça représente environ 2% du marché du livre contre 20 ou 25% aux États-Unis.
L'axe français qui a été choisi, c'est de sécuriser l'environnement juridique avant de développer le marché. C'est ce qui a été fait. Et là, vous voyez, je ne fais pas de la politique, je rends hommage à Frédéric Mitterrand qui a fait cette loi sur le prix unique du livre numérique et qui a demandé la TVA à 5 sur le livre numérique qu'il a obtenu. On verra le jugement de Bruxelles plus tard. Pour le coup, nous soutenons la numérisation des catalogues des éditeurs et j'ai annoncé que n'avait pas d'opposition.
C'est en versant des subventions ?
Oui, tout à fait, à la numérisation de leur catalogue, et que je n'avais pas d'opposition à soutenir les nouveautés des éditeurs fort éloignés du numérique aujourd'hui, ou alors des nouveautés qui coûtent très cher, on le sait, en livres d'art ou en sciences humaines, c'est pas du tout la même chose à numériser en coût que de numériser un livre, à cause des appareils critiques, à cause de l'iconographie. Un roman, pardon. Et ce que je pense, c'est que aujourd'hui, nous avons rattrapé le retard en offre légale ou nous sommes en train de le rattraper. Il y a un problème dans ce pays qui est un problème d'équipement. Il y a un problème d'équipement au sens où les Français s'équipent de plus en plus, mais ils s'équipent en tablette. Et manifestement, un jeune de moins de 19 ans sur 5 a une tablette à lui. Et manifestement, cet équipement en tablette décolle. L'équipement en liseuse ne bouge pas. Les liseuses, aujourd'hui, c'est 2% de l'équipement global. Et or, on sait que sur tablette, on ne fait pas que lire. Donc, la question du démarrage du numérique, moi, je pense que le numérique est inéluctable et qu'il va démarrer.
Vous voulez dire qu'ils préfèrent les jeux vidéo à lire un livre de philosophie? C'est une...
Ils lisent beaucoup, les jeunes. C'est l'enquête qui a été citée, IFOP Livre Hebdo l'a montré, et CNL et SNE aussi l'a montré, ils lisent beaucoup.
France Culture, 19h51 en direct. Ce soir, notre invité Vincent Monadet, président du Centre National du Livre. Une question d'Emmanuel Paquette.
Oui, je reviens sur votre comparaison avec le CNC, parce que le CNC aujourd'hui utilise une partie de ses fonds justement pour numériser le fonds de catalogue du cinéma, des vieilles bobines pour essayer de faire en sorte que tout cela soit pérennisé. Est-ce qu'il n'y aurait pas une similitude, un quelque chose d'équivalent à faire de votre côté? C'est-à-dire de regarder du fonds de catalogue plutôt que, vous parliez de nouveautés extrêmement chères, mais plutôt du fonds de catalogue. Alors, sans doute libre de droit aujourd'hui, mais à restaurer dans des versions...
Nous faisons une grosse action avec la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, de numérisation du domaine public. Nous y consacrons 6 millions d'euros par an que nous versons à la BNF, qui, elle, fait la numérisation puisque c'est son rôle. C'est elle qui a la vocation patrimoniale et conservatrice dans ce pays. Donc ça, nous le faisons déjà. En plus, nous numérisons les fonds de catalogue sous droit des éditeurs. Et enfin, moi, j'annonce la possibilité pour des éditeurs qui n'ont pas encore d'offres numériques, de voir leurs nouveautés pendant un certain temps limité numérisées, de façon à ce qu'ils se lancent sur cet environnement qui un jour prendra effectivement son envol, y compris économiquement.
Alors il y a plusieurs sites qui ont été lancés, on les connaît mal en France, mais ils s'appellent Scribd, avec un B et un D à la fin, le plus connu d'entre eux, Oyster, Antitle, etc. Ce sont au fond des Netflix du livre, ou on pourrait le dire autrement, des Spotify du livre. Autrement dit, vous vous abonnez à Scribd, par exemple, pour $9.95 par mois, et vous avez par abonnement, de manière illimitée, des livres en streaming. Alors ça paraît presque de la science-fiction, mais pour l'instant, ça se développe beaucoup aux États-Unis. États-Unis. Est-ce que c'est une menace, au fond, après le livre, après le disque et après le film, d'avoir un jour des abonnements au livre, avec évidemment les problèmes de droit que ça peut poser, alors, notamment de pourcentage de droit.
Si l'offre est légale et que les ayants droit sont effectivement rémunérés, non, c'est une autre façon de lire, c'est une autre façon de faire une offre.
95 dollars par mois.
Voilà. Mais aujourd'hui, il faut avoir les catalogues des éditeurs et personne n'est venu voir les éditeurs encore pour leur proposer une offre d'abonnement de streaming qui leur permette de se rémunérer correctement. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de possibilité d'offre en France parce que les éditeurs n'ont pas cédé leur catalogue à ce type d'offre.
Et puis il y a une perte très très forte de pouvoir d'achat, enfin, non seulement des entreprises qui ont énormément de mal à se rémunérer, même si c'est un pouvoir d'achat pour les consommateurs.
Je lisais là avant d'arriver que les industries de la musique se réjouissent maintenant d'avoir touché, je crois, 1 milliard de la part de Spotify par rapport à ce que ça leur a volé. C'est bien qu'ils se réjouissent, mais enfin, il faut quand même qu'ils regardent ce qu'ils ont perdu.
Enfin, c'est pas Spotify qui les a volés en l'occurrence.
Non, par rapport à ce qu'ils ont perdu au moment de la numérisation, 1 milliard c'est formidable, tant mieux pour eux. Si ça allait faire démarrer, tant mieux, mais il ne faudrait pas que dans le livre, on perde 2 ou 3 milliards d'euros pour récupérer finalement 500 millions.
On parlait tout à l'heure du réseau des libraires et qui constitue une vraie exception culturelle française et de l'aide que vous lui apportez. Mais alors justement, quid de l'avenir de ce réseau face à l'impact de la numérisation? Parce qu'on voit bien qu'avec les nouvelles offres qui sont en train de se développer, ce réseau est quand même certainement plus que celui des éditeurs. D'ailleurs, dans la chaîne du livre, est certainement le plus menacé par cette numérisation qui paraît inéluctable.
Écoutez, on l'a très mal pris par le mauvais côté du manche, cette histoire de la présence des libraires en numérique en voulant copier Amazon et en faisant un système avec entrepôt qui s'appelait PL2i, qui a été un échec retentissant. Aujourd'hui, il y a des libraires, je parlais de Charles Kermarec, la librairie Dialogue à Brest qui a développé les libraires.fr, il y a les librairies de Librest qui ont développé la librairie.com, qui proposent une offre pour les libraires qui viennent en marque blanche, en fait, sur ces sites et qui leur permettent de vendre des livres papier par Internet et aussi du livre numérique, des solutions de livre numérique.
Vous le dire avec leur vraie marque, alors que c'est une marque blanche par derrière, c'est-à-dire quelqu'un qui le fait pour eux, quoi.
Tout à fait. Or, il y a deux systèmes propriétaires, Amazon et Apple, je résume assez simplement. Puis après, les libraires qui peuvent se vivre et exister sur un système non propriétaire et interopérable. Ce qu'on n'a pas trouvé, la martingale qu'on cherche tous aujourd'hui, c'est le système très facile qui permettrait aux libraires de faire une offre très simple directement à leurs clients. Parce qu'ils ne vont pas vivre sur l'Internet, c'est pas vrai. Ils vont vivre avec leurs clients qui veulent acheter du numérique. Ils ne vont pas demain aller concurrencer Amazon. En revanche, il ne faut pas qu'ils perdent leurs clients.
Entre le garage rock et le rock tout court, hein, on parle parfois d'indie rock, le rock indépendant. On écoutait à l'instant, pour se quitter, un extrait du nouvel album des Black Keys, les Américains de l'Ohio, album intitulé Turn Blue, qui sortira le 13 mai. On en reste là pour ce soir. Merci Vincent Monadet, président du Centre National du Livre, d'avoir été notre invité ce soir. Vous êtes heureux de trouver un député israélien qui a voté la loi française sur le prix unique du livre.
Je suis absolument ravi. On avait suivi ça avec intérêt. Il y a aussi ça pourrait arriver en Pologne, donc on prie très fort pour que ça arrive et on est vraiment ravi. Et c'est ce qu'on se disait avant l'émission. Cette loi a mis un peu de temps en France avant de produire ses effets, donc il faut être patient parce que c'est des effets.
Permettez-moi de vous poser une question. Combien de temps il faut attendre pour que la loi marche?
Il faut que des boutiques ouvrent et là elles s'apercevront qu'elles peuvent rompre avec qu'elles peuvent concurrencer les chaînes et plus en plus de boutiques ouvriront.
Voilà, ça va aller vite, Merci Anissan Horovitch, député à la Knesset à Jérusalem, du parti Meretz. Cette émission Soft Power a été préparée ce soir par Mathias Meji, Raphaël Camusé, Théo Corbucci, à la régie ce soir Théo Gomard.
Soft Power, une émission de Frédéric Martel avec Agnès Chevaux ainsi que Emmanuel Paquette, réalisée ce soir par Vincent Abouchard.